Bonjour, c'est Nathalie, je suis à Reims. Je profite d'un jour où je travaille pas pour écouter en podcast certaines émissions de La Terre au Carré. Et je viens d'écouter l'émission sur la chasse. Je me rappelle qu'il y avait eu un message de la part d'un Ludovic de Dieppe qui disait, lui, qu'il chassait, mais qu'il était prêt, justement, à laisser tomber des jours de chasse, à laisser tomber des pratiques archaïques, et qui, apparemment, il chasse que ce qu'il mange. Je trouvais que c'était un point de vue intéressant. Je profite pour dire quand même que moi je suis anti-chasse. Par contre, je suis prête à entendre certaines personnes qui sortent un peu des caricatures justement et qui sont pas bloquées sur le plaisir de tuer. Voilà, et merci pour vos émissions. À bientôt.
Et salut La Terre au Carré, c'est Colline à côté de Pertuis dans le 84, Vaucluse, au nord d'Aix-en-Provence. Monsieur Pelinck, maire de Pertuis, est sur le point de bétonner 86 hectares de terre qui sont en ce moment même cultivés en agriculture biologique et dont les légumes partent pour des assos, pour nourrir des personnes en situation précaire. Là, je suis émue et je suis en colère. Il y a des choses à faire. Il faut que les gens nous rejoignent. Renseignez-vous sur ce qui se passe à Pertuis, sur la ZAP, zone à patates de Pertuis. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. C'est un appel à l'aide. C'est une catastrophe à la fois écologique et humaine qui est en train de se passer sur ces terres où des personnes sont expropriées pour agrandir une zone commerciale. Merci.
Oui, bonjour Julien, Chartres. J'appelle par rapport au coût que représente le lancement du télescope James Webb. J'aimerais remettre en lumière les 2000 milliards de dollars utilisés juste pour le budget militaire mondial, à remettre en parallèle avec tout ce qui est donné pour la recherche. Il me semble-t-il est quand même beaucoup plus utile que de tirer sur les pauvres gens. Merci.
Bonjour, c'est Solène d'Orléans. J'ai regardé le résumé de ce qu'avait dit notre cher président dans les informations, dans les journaux. Pas un mot sur l'environnement. Je croyais que c'était le chef de l'environnement. Donc ça me désespère un peu. En même temps, je suis un petit peu blasée. Voilà, mais 2 heures de discours présidentiel et pas un seul mot sur l'urgence climatique. C'est un peu désespérant. Bonne journée.
Bonjour, c'est Bruno du Cantal. Permettez-moi un coup de gueule contre la chasse. La provocation de M. Schrein et des chasseurs qui disent qu'ils sont les plus grands écologistes, c'est vrai, je le vois tous les week-ends, quand je les vois arriver avec leurs 4x4 et qui défoncent tous nos chemins. Et non, la chasse n'est pas la représentation de la ruralité. J'habite au fin fond du Cantal, je suis contre la chasse parce que c'est dangereux et inutile. C'est le monde rural qui est menacé par la chasse. Merci, au revoir.
Bonjour. C'est Léa du lac de Retournemer. Je dis stop à la colonisation scientifique du lac de Retournemer jusqu'au lago de la Polynésie en passant par l'Antarctique sous prétexte de progrès et de sauvegarde de la planète. La Terre tournait avant leur invasion technologique. Merci, bonne journée et bravo à Camille. Au revoir.
Voilà, et la répondeur des fois un peu plombée, alors... pour les vacances de Noël, je voulais vous laisser un petit moment pastoral avec mon troupeau de chèvres de rove à plein feuille. On est bien, c'est sympa, il y a encore des bergers. Donc moi, Sylvain, Annabelle, Julien, Rebecca, Vincent, Maud et plein d'autres encore. On est dans les collines, on a des troupeaux de chèvres, de brebis, tout ça. Et ça existe encore, c'est super chouette. Alors, 10 secondes de bonheur, quoi. Et bonne année, alors.
Le répondeur de La Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Il y a des animaux auxquels personne ne pense vraiment et qui deviennent du jour au lendemain de véritables stars des médias. Et c'est le cas de la panthère des neiges. En France, le simple nom de ce félin renvoie immédiatement à un objet littéraire qui, il y a 2 ans, a pulvérisé les ventes avec 500 000 exemplaires vendus et un prix Renaudot à la clé. Dans ce livre, son auteur Sylvain Tesson décrivait ses semaines d'affût à 5000 mètres d'altitude au Tibet par moins 30 degrés à guetter l'apparition de la bête aussi invisible que mystérieuse. Et derrière ce livre, il y avait la quête d'un homme, celle du photographe Vincent Munier qui a vu la panthère des neiges pour la première fois en 2016 au Tibet. La semaine dernière est sorti sur les écrans le film sur la panthère des neiges et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi ses réalisateurs, Marie Amiguet et donc le photographe animalier Vincent Munier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans La Terre au Carré. Au cours de cette émission, nous serons également en ligne avec vous, Justine Chantier-Alexander. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Snow Leopard Network et experte scientifique pour le Snow Leopard Trust, une organisation américaine qui travaille avec 12 pays où la panthère des neiges est présente. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de cet animal étonnant. Et je signale aux auditeurs que l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir les messages comme d'habitude. Elle est là avec nous, Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert aux alentours de 14h30.
Oui, Vincent Munier fait des adeptes, photographes nature, amateurs un peu envahissants et pas toujours très disciplinés, vous l'entendrez.
Et puis en fin d'émission, nous plongerons dans l'univers sonore de Pure, le podcast de nos partenaires de France Télévisions. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Colin Gruel avec Gilles Gaillard à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Je l'avais rencontré un jour de Pâques, après une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Et notre amitié était née de mon admiration pour l'artiste. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu. La panthère des neiges.
Et la voix de Sylvain Tesson, La panthère des neiges, un film sorti donc la semaine dernière sur les écrans. Et c'est le film de Noël, allez voir évidemment cette semaine. On en parle aujourd'hui avec vous, Vincent Munier et Marie Amiguet, qui avaient réalisé ce film. Et puis aussi avec l'experte scientifique du Léopard des neiges, Justine Chantier-Alexander. Vincent Munier, la dernière fois que nous nous sommes vus avec Camille, c'était chez vous.
Dans les Vosges.
Notre maison merveilleuse des Vosges pour la première des 4 saisons de La Terre au Carré. Depuis, avec Marie Amiguet, vous avez beaucoup bourlingué pour aller à la rencontre du public. À l'occasion de pas mal d'avant-premières qui ont été organisées autour du film La Panthère des Neiges. Vous qui passez autant de lieux seuls dans la nature sauvage, comment est-ce que vous vivez en ce moment cette période de promotion, comme on dit dans le jargon médiatique ? Allez, sincèrement.
Ah, sincèrement, je peux pas. Oui, je peux pas le nier. C'est épuisant, fatigant.
Ça vous épuise, ouais.
Oui, vraiment. On est. Là, on est vraiment épuisé. On est content, évidemment, d'accompagner ce projet, ce film qui nous tient à cœur, qui a quand même plusieurs années de travail, donc ça on le fait, mais avec un petit peu de difficulté. Et là on a hâte vraiment de retrouver nos montagnes vosgiennes.
Ouais, mais c'est plus épuisant que de passer des heures justement à l'affût dans des conditions extrêmes à attendre un animal, parce que ça moi je trouve ça épuisant.
À moins 30 degrés.
Ça c'est un épuisement physique, mais pas un épuisement mental.
Mental ou psychologique. Non, c'est rude, un peu comme pour y aller finalement, parce que souvent dans les montagnes on y est très bien. Mais toutes ces grosses mégalopoles chinoises, tous ces contrôles police, c'est épuisant, presque au même titre que la promotion.
Marie Amiguet, c'est quand même le plaisir d'avoir son film sur le grand écran, parce que c'est un film qui sort au cinéma. C'est votre premier et c'est pas rien quand même. Il y a ce plaisir-là pour vous, j'imagine aussi.
Bien sûr, et puis Vincent oublie de dire, mais il est très heureux aussi des retours qu'on a du public. On a vraiment des retours extrêmement chaleureux, des gens qui nous disent ce film c'est un choc, ça nous a fait du bien, c'était beau. Donc ça c'est évidemment, ça nous remplit, c'est ça qui nous a donné de l'énergie de continuer.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a surpris d'ailleurs dans les réactions du public auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être au cours des projections,
Vincent Millet ? On était vraiment ravis et surpris de voir les enfants, parce qu'on ne savait pas trop. C'est quand même un film qui est très contemplatif, poétique, avec des échanges qui ne sont pas si évidents entre Sylvain et moi. Sylvain, c'est quand même un peu littéraire. Et on était assez surpris de voir des enfants de 10 à 12 ans avoir les yeux qui brillaient à la sortie des séances. Ça fait plaisir.
Et en plus, le film, je ne spoile rien parce que c'est le tout début, mais commence par une scène hyper difficile, particulièrement peut-être pour les enfants, avec cette scène qu'on voit d'en haut, Marie Amiguet. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous d'ailleurs.
Mais on voit une meute de 9 loups qui fond sur un troupeau de yaks sauvages et qui encercle un jeune et qui petit à petit le met à l'écart de la troupe. Et puis là, au bout d'un moment, quelques minutes, dans le film ça fait 1 minute 30, mais on va rester 5 minutes, la mère essaye de protéger son petit. Elle veut enfourcher un loup, elle enfourche son petit qui vole à 3 mètres de haut, il retombe par terre, bam, comme ça. Et soit elle le sacrifie parce qu'elle le sait condamner, on ne sait pas.
C'est ça, c'est vraiment la question qu'on se pose, ouais. Effectivement. Est-ce que ce n'est pas une façon d'abréger ses souffrances aussi?
Mais peut-être, il y a une spectatrice qui nous a suggéré ça, là, du cabinet qui était sorti sur les bisons en Amérique. Ouais.
Marie Amiguet, Vincent le disait, c'est un film un peu littéraire, en tout cas oui, même si il est très accessible au grand public, mais il y a surtout aussi le fait qu'il soit beaucoup chuchoté, et ça c'est aussi un pari pour le public. Est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit au départ quand on a envie justement de monter un long métrage comme ça?
Alors vraiment, on a ça va faire un petit peu amateur, mais on n'a pas du tout réfléchi. Ouais. On est parti vraiment. Vincent m'a dit, j'aimerais bien que tu filmes cette rencontre sur les hauts plateaux entre Sylvain et moi. Moi, si vous voulez, ce premier voyage au Tibet, j'avais absolument jamais été. J'ai pas fait de repérage et j'ai filmé tout ce que j'ai pu de la manière avec laquelle j'aime filmer les gens, mais rien n'était écrit. Et si vous voulez, ces chuchotements, c'est pas tant un choix, c'est une obligation, en fait. C'est qu'on chuchote tout le temps, ouais, parce qu'on essaye de faire le moins de bruit possible.
Ouais. Justine Chantier-Alexander, vous qui êtes en ligne avec nous, est-ce que vous avez vu le film de Marie Amiguet et Vincent Munier?
Oui, j'ai eu le plaisir de le voir.
Alors, vous qui êtes experte en Léopard des Neiges, un avis quand même, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sincèrement, allez.
Oui, alors j'ai beaucoup aimé parce que ça donne vraiment l'impression de l'habitat de la panthère de neige, parce que c'est vraiment un habitat où il y a d'autres espèces aussi, c'est pas seulement la panthère de neige, et il y a aussi des humains qui cohabitent avec la panthère. Alors j'ai vraiment aimé, je crois que c'est un film assez honnête.
Une petite question de sémantique, léopard, panthère des neiges, c'est la même chose?
Ah, désolé, ouais, panthère de neige en français. En anglais, on dit snow leopard. Oui. Alors, c'est léopard.
Est-ce que vous l'avez vu, vous, Justine Chantier-Alexander, le léopard des neiges?
Oui, alors, j'ai fait 5 ans de doctorat et je ne l'ai pas vu pendant 5 ans vivant en montagne, en Chine. Mais après que j'ai commencé à travailler pour le Snow Leopard Trust, mes premiers 4 mois, je l'ai vu en Chine. Une mère et 2 jeunes.
Et quel a été votre sentiment? Alors, parce qu'on voit l'émotion de Vincent Munier, évidemment, quand il découvre ce léopard. Mais vous, ça a été quoi pour vous?
Alors, je me suis dit, ah, j'ai fini. J'ai plus besoin de travailler maintenant.
Vraiment?
J'ai assez, ouais. Non, mais parce qu'on donne toute sa vie à cette espèce et on croit qu'il n'existe pas, presque, parce qu'on voit les signes. On sait qu'il est là dans les montagnes. Il nous regarde. Et je ne l'ai jamais vu avec mes yeux. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, peut-être j'ai fait ce que j'avais besoin dans ma vie.
Et qu'est-ce qui explique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, biologiquement, que ce soit un animal si discret et si difficile à voir finalement?
Alors c'est un félin et c'est un expert du camouflage et dans son habitat très montagneux et rocheux. Alors ça veut dire que c'est très dur d'y accéder. Ces régions très hautes en élévation, mais aussi on sait maintenant qu'ils ont des grands territoires. Un mâle, par exemple, a un territoire de environ 200 km², et les femelles environ 130 km². Alors les territoires sont très vastes et ça veut dire que dans des bons habitats, il y a peut-être un individu chaque 100 km².
Parce qu'ils vivent en solitaire.
Oui, ils vivent en solitaire, sauf les mères avec leurs petits.
Marie Amiguet, en partant au Tibet, donc avec Vincent Munier et Sylvain Tesson, rien ne vous garantissait de pouvoir filmer justement cet animal. C'est une pression quand même immense, j'imagine, non ?
Alors oui, rien ne nous garantissait de l'avoir, c'est certain. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'on parte, moi je suis arrivée sur le tard sur le projet. Vincent, il avait déjà fait 5 voyages là-bas et il avait accumulé beaucoup de photos et de vidéos animalières. Il filme beaucoup en fait. Et il avait déjà filmé pas mal de panthères. Donc moi, j'étais sûre qu'on la verrait pas, honnêtement. Hein.
Ouais.
Je me disais, ce serait trop beau. Pas déjà, c'était trop beau de partir tous les 3, tous les 4 avec Léopold. Et puis en plus de ça, espérer voir la panthère, moi je... Bon, c'était un peu sous-estimé, Vincent.
Mais il y a eu un soulagement pour vous. On spoil le film, enfin quand même.
Sûr.
Il est
oui,
sur l'affiche, donc on se doute bien
évidemment.
Qu'on va le voir quand même. Mais
bien sûr. Ben, en fait, moi, c'était surtout une grosse émotion de voir Vincent pleurer, ému aux larmes, et puis de voir Sylvain.
C'est là où Marie est très professionnelle jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé, elle n'a même pas jeté un coup d'œil sur la panthère. Elle a vu la panthère à travers les yeux de Sylvain et moi. Incroyable.
Ouais, il fallait continuer à cadrer.
Et justement, hein. Voilà. Non, mais la pression, Marie Amiguet, parce qu'on oublie, alors c'est les deux garçons là, qui sont un petit peu les stars du film, hein, Sylvain et Vincent, sauf que moi j'ai pensé tout le long du film à vous, à chaque fois devoir anticiper, vous tapez la caméra à portée j'imagine, et évidemment ne pas rater les plans. Comment ça se passe en fait concrètement? Moi je vous dis bravo d'ailleurs, hein, parce que vraiment c'est impressionnant.
Bah, comment ça se passe? On est dans le doute tout le temps, enfin je doute tout le temps. Il y a quelques moments voilà, où on filme et puis on sait que ça, on tient une pépite et on sait que ça sera dans le film, par exemple, les enfants qui montent à l'affût. Voilà. Sylvain Vincent qui voit la panthère, évidemment. Bah, c'était la conclusion qu'on espérait peut-être même plus, tellement on l'a vu 3 jours avant notre départ.
Mais ça veut dire que vous filmez tout le temps, en fait?
Pas tout le temps. Bah, je capte plein de moments. Et puis, si les conditions sont en plus favorables, bah, j'insiste. Si je vois que les garçons sont aussi dans un état d'esprit qui est un petit peu posé, alors à ce moment-là, je pose une question, je les lance sur une discussion. Parfois, c'est eux qui discutent spontanément. Mais il y a beaucoup de déchets aussi, et c'est pour ça que c'était tellement dur à monter.
Allez, on se retrouve dans un instant. La Panthère des Neiges, donc, est sortie sur les écrans la semaine dernière, partout en France. Et vous êtes nos invités avec Justine Chanty-Alexander.
Yeah. Can't Hide It. C'était Curtis Harding sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Tu vois, ce qui me fascine chez toi, notamment, c'est la connaissance très poussée de toutes ces formes du vivant. L'intérêt que tu y portes, la passion. Ça me fait réfléchir là, depuis quelques jours. Je te regarde évoluer au milieu de ces parages naturels et détecter chaque mouvement, t'intéresser à chaque oiseau, regarder les traces de chaque animal, t'émerveiller de chaque rencontre. Assister à ça, ça me ramène à l'incroyable indifférence avec laquelle j'ai traversé les paysages pendant des années sans me rendre compte qu'ils étaient tellement peuplés. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
Voilà, extrait de ce film La Panthère des Neiges, sorti donc mercredi dernier sur les écrans, la voix de Sylvain Tesson dans ce dialogue avec vous, Vincent Munier, au Tibet. J'avoue que c'était une surprise, cette partie de Sylvain Tesson, ce qu'il dit de lui-même dans sa traversée des paysages, alors ce que les lecteurs ont pu découvrir dans La Panthère des Neiges. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, lui qui a tellement bourlingué dans des paysages sauvages et avoué que finalement, il ne les observe pas vraiment.
Oui, bah c'est ça qui est assez intéressant. Je pense que dans ce film, les gens se retrouvent un peu dans le personnage de Sylvain. C'est vrai qu'on a quand même tendance à être toujours dans des endroits, ça peut être ailleurs que sur les hauts plateaux du Tibet, et puis oublier finalement qu'il y a une présence animale pas très loin. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que il serait temps qu'on soit attentif un peu aux autres. Et Nick Cave termine avec cette chanson We Are Not Alone, qui résume assez bien ça. Je trouve que on a quand même avancé avec toujours un peu des œillères, sans être attentif à cette beauté qui est accessible ou un peu moins avec la panthère, mais qui est là.
Maria Miguet, vous assumez le fait de proposer un film artisanal, justement, dans sa conception initiale ?
Complètement. D'ailleurs, je ne sais pas comment il aurait pu en être autrement, parce qu'on a l'habitude de travailler un petit peu comme ça. Tous mes films, je les ai montés à la maison auparavant, et même celui-là, on a beaucoup, beaucoup monté à la maison. Heureusement, est intervenu ensuite Vincent Schmitt, qui avait beaucoup travaillé sur Océan aussi, de Jacques Perrin, et qui vraiment nous a sauvé le film, quoi. Il nous a aidé à...
En quoi il l'a sauvé?
Il l'a sauvé parce que ça faisait des mois, si c'est pas des années, qu'on avait le nez dans notre montage, et donc il y a des heures et des heures qui sont montées, et qu'on essaye d'assembler comme un puzzle, sans avoir vraiment le recul nécessaire. Quand normalement un cadreur, il monte pas ses images parce qu'il a pas le recul, et puis un réalisateur il est censé avoir un monteur qui l'aide, et tout ça a été des décisions qui sont arrivées un petit peu tard, et puis et il faut un point de vue un petit peu extérieur pour dire voilà, si vous voulez raconter cette histoire là à ce moment là cette séquence elle ne vous est pas utile, il faut la virer. Ouais.
Justine Chantilly, Alexander, présentez-nous quand même votre organisation, le Snow Leopard Trust, s'il vous plaît.
Oui, alors le Snow Leopard Trust est basé à Seattle, aux États-Unis, mais on travaille dans les 12 pays où il y a la panthère de neige. Mais on travaille avec, on est basé sur la science, alors on a beaucoup de projets long terme à étudier cette espèce très élusive et qu'on sait pas encore beaucoup. Et aussi on travaille beaucoup avec les communautés locales pour sauvegarder l'espace au long terme. On pense que la panthère de neige vit pas seule dans les montagnes, et seulement 14% de l'habitat est protégé. Alors il faut une solution où on travaille avec les gens qui habitent dans ces montagnes. Alors tous nos projets, c'est vraiment des projets de travailler avec les communautés locales et trouver des solutions très localisées pour eux.
Parce qu'aujourd'hui, elle est potentiellement ou peut-être même déjà en danger ou pas, la panthère des neiges ?
Oui, bien sûr, oui. Alors, parce qu'elle était tellement élusive et dure, et elle vit dans des endroits très loin en montagne, il y avait moins de développement, il y avait moins d'activités humaines dans ces endroits. Mais maintenant, on voit beaucoup de menaces. Le monde de la léopard de neige évolue rapidement, et les menaces sont vraiment réelles. Il y a des menaces comme l'abattage direct des individus, de leur poids et aussi l'empiètement de leur habitat comme l'exploitation minière et le développement non réglementé. Alors l'espèce et leur écosystème est vraiment en danger. Et il y a aussi ces menaces globales telles que le changement climatique qui influence leur écologie, la vie des gens dans des manières qu'on ne comprend pas toujours beaucoup, pas encore.
Vincent Munier, quel est le lien des Tibétains avec cet animal? Alors cette famille par exemple dans laquelle vous étiez, est-ce que c'est un animal qui avait une importance particulière ou pas du tout?
Les nomades, ils vivent quotidiennement avec. En Chine, alors moi je connais vraiment, je suis allé un peu au Kyrgyzstan. Là, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de braconnage, vraiment
pour la fourrure,
la fourrure principalement, ouais. Et puis pour la médecine chinoise également. Au Tibet, donc sur ces territoires chinois, évidemment. C'est très bizarre, c'est très paradoxal. Les Chinois peuvent être énormément destructeurs, si on le connaît, comme le disait Justine, avec ses mines, ses extractions, ils sont très présents sur les hauts plateaux. Mmh. Mais à l'inverse, ils peuvent nous faire des grosses réserves, où là, vraiment, ils excluent les nomades, et c'est vraiment que pour la nature, comme la grande réserve de Kekecheli. Et ils n'ont pas le droit d'être armés. Donc tout ça pour dire qu'ils se défendent, entre guillemets, avec les grands prédateurs. Donc il y a l'ours, évidemment, il y a le loup et la panthère, avec des frondes. Donc ce sont les gamins qui balancent des pierres aux panthères. Mais on n'a pas ressenti la haine qu'on peut avoir ici, en France en l'occurrence. C'est comme si c'était la part du sauvage. Ils savent très bien qu'il y a entre 5 et 10% du cheptel qui peut être pris par des animaux sauvages, des prédateurs sauvages, et ils l'acceptent. Relativement, ceux qu'on a pu rencontrer. Hein. Et à l'inverse, les loups, par exemple, ils disent que ce sont un peu leurs alliés. Ça permet vraiment de disperser les herbivores sauvages qui sont en concurrence, qui sont en compétition avec le cheptel, en quelque sorte. Donc c'est presque un peu des alliés. Il est certain, comme le disait Justine, un peu, il y a quand même, et j'en ai vécu ça avec les loups d'Abyssinie, en Éthiopie, il y a quand même de plus en plus de monde, de plus en plus de bergers. On a de moins en moins de Tibétains et les Chinois arrive avec énormément de moutons, donc il y a encore la compétition est de plus en plus forte. Et bien sûr, le sauvage est de plus en plus obligé d'être dans les montagnes.
Vous parliez de Nick Cave, hein, de cette chanson donc, qui clôture le film, qui s'appelle We Are Not Alone, avec la musique de Warren Ellis. Mm-hmm. C'est une magnifique rencontre évidemment pour vous. La bande originale d'ailleurs vient juste de sortir. On en écoute un extrait.
We are not alone. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We don't see them.
Nick Cave et la musique de Warren Ellis, Vincent Munier et Marie Amiguet, vous avez été vernis quand même sur ce coup-là. Hein. Pour un film amateur, avoir la musique de Warren Ellis, c'est et la voix de Nick Cave.
Complètement improbable. Ouais. On a une chance inouïe, évidemment. On était même surpris que des gens d'un univers aussi différent que le nôtre aient été séduits par notre film, qui reste un film relativement simple. Et voilà, comme disait Marie, une histoire de copain là-bas au Tibet.
Avant de passer à Camille Passauvert avec un sujet qui vous concerne, Vincent Munier, vous aviez une question, Vincent, à poser à Justine Chantier-Alexander sur les léopards de neige.
Justine, c'est vrai que souvent en ce moment, on nous pose la question après les séances, l'estimation un petit peu de la population mondiale de la panthère des neiges. Et ça, pour moi, c'est difficile d'y répondre. On voit des fois 4000 individus, 5000, 10000. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est vrai. On a plusieurs estimations et ils sont tous basés sur l'opinion expert. Alors, ça veut dire qu'ils sont pas basés sur des enquêtes mondiales systématiques. C'est pour ça qu'ils sont très différents. Mais c'est à vrai dire qu'on n'a pas vraiment une estimation précise sur la population.
Et le chiffre qui met à peu près tout le monde d'accord, ce serait quoi alors?
Tout le monde n'est pas d'accord.
Bon.
Même les scientifiques.
Merci pour votre non-réponse alors. Bon, entre 4 et 10 000 alors, avec une fourchette assez large.
On a une bonne nouvelle, on a un projet qui s'appelle PAWS, alors c'est comme c'est la patte de la panthère de neige en anglais, et on espère dans 2023 avoir une estimation très rigoureuse, parce que maintenant tous les partenaires du Snow Leopard Network, du Snow Leopard Trust, on utilise les mêmes manières d'estimer leur population, utilisant les pièges caméras. Alors maintenant on a 10% de leur leur territoire avec des caméras, pièges caméras. Alors on pourra avoir une estimation très bientôt, Vincent. Alors j'espère pouvoir répondre en 2023.
Justine Chantier-Alexandre, est-ce que vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes ?
Oui, bien sûr.
Ah ben, formidable, on vous garde parce qu'on a encore quelques questions à vous poser autour de la Panthère des Neiges.
France Inter. La Terre au carré.
Car c'est l'heure de Camille Passauvert, Camille Cronier.
Et je m'adresse directement à Vincent Munier en face de moi. Vincent, vous et d'autres célèbres photographes animaliers, auriez-vous créé un monstre ?
Un monstre ? Oui, c'est... Je ne sais pas.
Parce que, pourquoi un monstre ? Parce que vos clichés et votre métier font rêver, mais tellement qu'aujourd'hui, il y a parfois un petit peu trop de monde sur le terrain. En témoigne Patrice Aguilar, photographe mais aussi accompagnateur à l'agence Amarok de Séjour Nature.
Il y a son film qui est sorti sur la Panthère des Neiges. Et donc, voilà, la réflexion des gens, c'est Vincent y est allé, faut qu'on y aille aussi, faut qu'on aille voir ça. Donc, ça crée un peu un tourisme, entre guillemets, un tourisme de masse en photo animale.
Aïe, 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 l'insulte suprême. Tourisme de masse, vous comprenez donc quand je vous parlais d'avoir créé un monstre. Et voilà concrètement alors à quoi ça ressemble avec Véronique Thierry, naturaliste, fondatrice de l'association 1000 vaches dans le Vercors.
On était à côté d'un lac où il y a des milliers de grues qui s'envolent le matin. Donc on part le matin avant le lever du jour pour aller observer ces grues et on se retrouve avec 50 photographes avec des énormes appareils photo qui sont tous posés au même endroit et qui vont tous faire la même photo. Moi j'ai du mal à comprendre, l'intérêt de faire des photos comme ça.
Autre exemple.
Ça nous arrive aussi régulièrement d'aller sur le terrain avec des groupes pour aller essayer d'observer les marmottes ou autres et d'arriver sur place. De dire aux gens, on y va doucement, on s'approche sans faire de bruit, sans faire de gestes brusques, et on voit qu'à 5 mètres du terrier, il y a un photographe qui est là en pose avec son pied d'appareil photo et qui attend que la marmotte sorte.
En pensant peut-être à ne pas les troubler, ces petites marmottes, alors que bah si, hein, les marmottes en l'occurrence vont retarder par exemple le moment où elles mangent, et donc tout ça peut carrément avoir des conséquences sur leur survie à terme, ce qui fait dire une évidence à un autre photographe professionnel, Louis-Marie Préau. À savoir que...
Pour être photographe animalier, il faut vraiment être naturaliste avant tout, pour éviter le dérangement. Ou un animal qui alarme, il faut savoir le reconnaître et puis se retirer discrètement pour ne pas le déranger.
Mais voilà, ce n'est pas le cas de tous ceux qui se rêvent aventuriers, enfin, avant Munier, pardon. N'est-ce pas, Patrice Aguilar ?
On est dans une consommation où les gens... À la base, ils se disent amoureux de la nature, et puis à l'arrivée, s'ils n'ont pas la photo du loup ou la photo de l'ours ou quoi, ils vont faire un scandale, quoi.
Ambiance. Heureusement, il y a aussi des organisations en bonne intelligence. Louis-Marie Préau, qui travaille sur la Loire et qui vient d'ailleurs au passage d'en faire un livre auto-édité Loire Nature, raconte comment il a dû faire un peu évoluer sa pratique.
Dans les vallées inondables de la Loire, il y a des zones où j'étais tout seul en affût flottant pendant des années, et maintenant c'est vrai qu'on a des jeunes ou des moins jeunes qui viennent en affût flottant. Moi, ce que j'essaye de faire quand c'est comme ça, on choisit le jour où on y va. Bon, moi, je peux être prioritaire parce que je suis professionnel, mais après, je leur dis, moi, j'y viens pas, alors donc vous pouvez y aller. On dérange pas tous en même temps, parce qu'autrement, ça, c'est la foire d'empoigne, quoi.
Foire d'empoigne qui s'explique aussi, vous n'êtes pas seul responsable, Vincent Munier, aussi par leur matériel, hein, beaucoup plus accessible, moins cher, et parfois mal utilisé, c'est ballot.
Quand on voit les appareils photo qui existent aujourd'hui et les téléobjectifs énormes que la plupart possèdent, ça fait un petit peu mal au cœur de voir qu'ils font l'effort de s'approcher ou de couper une branche pour qu'on voit mieux.
Eh ben oui, tiens, vas-y, dégage la branche ou la fleur qui dépasse, tu vas me faire moins de likes sur Instagram. Parce que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien non plus, vous vous en doutez. Cela dit, tous ces professionnels qui étaient réunis il y a un mois en Haute-Marne au Festival International de la Photo Animalière et de Nature à Montier-en-Der, comme le raconte le journal en ligne reporter.net, donc tous ne veulent pas non plus trop jeter la pierre à ces nouveaux amateurs de photos, moins dangereux que les chasseurs par exemple, disent-ils. Louis-Marie Préau, qui était président du jury, ne veut pas, par exemple, limiter certains accès ou alors même limiter la pratique en elle-même.
Non, moi en tant que photographe, je ne peux pas avoir ce discours, parce que c'est vrai que la photo, pour moi, c'est quand même ce qui montre aux gens la beauté de la nature. Est-ce qu'on va apprendre à l'aimer ?
La démocratisation de la photo donc reste une bonne chose, à condition de respecter certaines règles, dit la naturaliste Véronique Thierry.
J'ai rien contre les photographes nature, mais voilà, attention à ne pas dépasser les limites. Faisons le maximum de pédagogie pour que les photographes animaliers ne soient pas à courir après le gros plan de la dernière espèce possible, et qu'au contraire, ils essayent de trouver des approches originales.
Voilà, plutôt que de cocher un petit peu comme des pays, vous savez, telle ou telle espèce sur son carnet, et bah trouver son propre style, s'imprégner du moment et savoir se fondre sans jamais trop s'approcher, sans jamais non plus la fin imaginer. Parce que cette phrase de Sylvain Tesson dans La Panthère des Neiges est peut-être le meilleur conseil à suivre, ouvrez les guillemets. C'était le contraire d'une promesse publicitaire, nous endurions le froid sans certitude de résultat. Au tout de suite de l'épilepsie moderne s'opposait le sans doute rien jamais de l'affût. Autrement dit, la photo animalière, ce n'est peut-être pas tant la photo qui compte à l'arrivée dans ce domaine.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur la page de La Terre au Carré.
Vincent Munier, alors, je vous repose la question. Vous avez créé des petits monstres. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil?
Non, mais bravo pour cette chronique. C'est tellement important. Là, vous touchez là où ça fait mal. Mais là, moi, c'est sûr que j'ai un sentiment de culpabilité parce que j'emmène énormément de monde dans cette passion et ça me touche. Moi, j'ai pu voir depuis des années à quel point ça a évolué, ça a été crescendo, qu'il y avait de moins en moins de naturalistes, comme le soulignait Louis-Marie Préaux, moins en moins de naturalistes et plus de photographes. Je pense qu'on est dans un système. Voilà, la photo animalière n'échappe pas à ce consumérisme. C'est horrible. Moi, ça m'affecte énormément. Et c'est pour ça que je martèle sans arrêt tous les jeunes qui veulent faire la même chose. Achetez la Hulotte, achetez les guides de Delachaux-Nestlé, lisez du Hénard, du Géroudet. Avant, soyez naturaliste, avant d'être un technicien et d'avoir envie de photographier. En plus, souvent, ils commencent pas par des rouges-gorges, mais des espèces hyper emblématiques. Et puis, les poster sur ces fameux réseaux asociaux, entre guillemets. Et ça, c'est une catastrophe. C'est évident. Et en effet, vous avez parlé des marmottes, mais il y a des espèces encore bien plus sensibles, et on sera obligé de faire des zones interdites, ce qu'on fait avec certaines espèces, comme le grand tétras, comme là où nichent des balbuzards pêcheurs ou des grands ducs, parce que surtout en période de nidification, il y a un impact qui est très fort. Donc là, oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un père naturaliste qui m'a tout montré comment faire pour essayer d'arriver tout doucement, d'avoir en tête en permanence qu'on n'était pas chez nous et qu'on peut y amener un désordre. Alors, tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et alors, les gamins qui veulent commencer ça, il faut en effet qu'ils soient un peu pris par la main et qu'il y ait un enseignement.
Et donc ouais. À ceux qui sortiraient du film en se disant, Maria Miguet, ah bah génial, j'ai trop envie d'aller au Tibet et d'aller me faire comme ça un petit trek à 5000 et essayer de trouver la panthère. Non.
À 5000 mètres, hein. 5000
euros. Bon, ça doit être la même chose. Aussi, hein. Oui. Voire plus.
Bah, on serait bien mal placé pour interdire aux gens de vivre leurs rêves. Après, il faut voir comment chacun, voilà, nous, on a l'habitude de voyager, on le fait par nous-mêmes. Quand on voyage, on prend soin d'aller rencontrer les populations, de dire bonjour, de dire qui on est, pourquoi on vient, de leur dire merci en partant, de leur envoyer des photos quand c'est fini. Et en fait, il y a toute une démarche comme ça où c'est pas seulement les animaux, c'est aussi les êtres humains et le rapport qu'on peut avoir entre nous. Et que ce soit au Tibet ou dans le Vercors, il y a des gens qui se comportent mal chez nous, hein, dans cette forme de tourisme de masse. Et donc c'est très... pour moi, c'est juste un problème d'éducation des gens, en fait.
Justine Chantier-Alexander. Oui, pardon, Vincent Minier.
Oui, et puis également, au niveau, vous parliez des agences de tourisme, c'est important parce qu'on reçoit pas mal de messages dans ce sens. En effet, d'éduquer un peu, parce que, juste une anecdote, j'ai rencontré une fois un photographe finlandais qui commençait la photo, il était richissime, il a vendu son entreprise, et en l'espace de 3-4 ans, il m'a montré des livres qu'il faisait, où il avait toutes les espèces, mais hyper compliquées à faire, des aigles royaux, des pigargues, des ours, des loups. Et j'en revenais pas, je me dis, mais c'est pas possible, comment a-t-il fait? C'est que des affûts payants, c'est-à-dire qu'on est sur des choses où on consomme une fois de plus. Il y a un tapis rouge, l'affût est prêt, on paye 200-300 euros la journée, et on fait des photos d'ours, de loups. Et ça se développe de plus en plus. Alors, les agences devraient un petit peu montrer que c'est pas tout gagné. Et je trouve que plus c'est un peu difficile et plus le chemin, on va découvrir, on va pister, on va tracer par nous-mêmes, et plus le résultat sera satisfaisant, je pense.
Et ce que vous montrez bien dans le film, c'est l'art de l'affût, hein, justement, ce qui est complètement à l'opposé de ce que vous décrivez. Exactement. Aussi dans cette rapidité à pouvoir faire son cliché. Justine Chantier-Alexander, juste un mot pour réagir au sujet, ça vous parle, vous aussi, ou pas?
Oui, parce que le tourisme de masse est déjà là en Asie, dans l'habitat de la panthère de neige. Et c'est déjà une menace, c'est un nouveau menace pour cette espèce. Et on essaie de vraiment travailler vite, parce que c'est venu ces derniers 5 ans, ouais. Et de trouver une solution, parce que chaque pays maintenant, les gens veulent y aller et prendre des photos. Et quelquefois, ils vont très près des mères avec leurs petits. Et ça devient vraiment horrible, parce que les mères doivent bouger leurs petits, et ça les met très vulnérables.
Vincent Munier, vous voulez rajouter quelque chose ?
On condamne un peu ça, mais parfois, c'est vrai que parfois, ça peut être bénéfique. Il faut bien se dire, là, on parlait du braconnage de la panthère, si c'est, on appelle ça de l'écotourisme, tout est encore discutable, mais ça pourrait permettre, en effet, de voir cette faune sauvage, ça permettrait de limiter le braconnage, et puis d'aider en fait les locaux à protéger leur faune sauvage. Donc il y a aussi parfois un intérêt.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier Panthère des Neiges avec nos invités sur France Inter et un film, une fois de plus, que je vous conseille d'aller voir dans les salles. Il est sorti mercredi dernier.
Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprends toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger mon frère, j'ai plus mon nom. C'est la magie au père, tout est tombé. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons.
Si tu veux, je ferai
mes démons, mes démons, mes démons.
Si tu veux, je ferai.
Deuxième extrait de son dernier et nouvel album, donc Angèle et Damso avec Démon.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà la suivante, je te remontrerai après, mais... Oh, regarde, c'est quoi ça? Renard. Mmh. Vu les températures et tout, c'est pas très fiable. Ça, c'est un renard du Tibet. Mmh. C'est cette nuit. Il y a quand même un... Oh putain, regarde! La panthère, camarade.
Ouais. Ah, c'est fantastique.
Hey, c'est la panthère, au milieu, elle s'arrête devant le piège, magnifique. Regarde
elle
ça,
baille.
Elle baille. Mais t'as vu, elle, bizarrement, elle est venue sur la droite.
Elle est sur la droite.
Alors que je l'attendais de face.
Ça veut dire qu'elle est arrivée par là?
Ouais, elle arrive par là. Et en plein jour. Hein. Allez, on reviendra peut-être dans 2 jours. Je pense que ça vaut le coup de faire des affûts par ici.
Voilà, la panthère piégée dans votre caméra, Vincent Munier. On est à peu près quoi, à la moitié, presque les 3/4 du film. On se dit, ben ça y est, on va enfin la voir, comme cette panthère.
Oui, parce c'est qu'elle ça, est là. Elle a été... voyage à peu près. Ouais.
Parce que là, vous avez donc réussi à la photographier, et donc vous étiez sur la bonne route, c'est ça? C'était aussi l'incertitude pour vous, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment la voir dans votre caméra, ou pas?
Oui, on la savait quand même dans ce canyon. Je l'avais vu sur des aventures précédentes, mais avec Sylvain là, on était toujours on était chou blanc, et donc ces caméras photographiques nous permettent en effet on en place quelques-unes pour nous aider à voir les déplacements. Et là, c'est la première fois qu'on l'avait vraiment sur le piège.
Marie Amiguet, vous dites quelque chose de très beau, que votre film a le pouvoir de toucher les gens dans des recoins oubliés d'eux-mêmes.
Ah, j'ai dit ça moi.
Ouais. C'est quoi ces recoins exactement?
Je pense que les recoins oubliés, c'est quand on oublie où est notre liberté d'être humain, en fait. Et la liberté d'être humain, c'est d'abord le temps pour soi, et puis c'est le temps pour réfléchir, pour avancer librement. Et je pense que c'est ces recoins-là que les gens viennent. C'est ces témoignages-là qu'on reçoit, parce que c'est quand on prend le temps, nous, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on voulait le partager. Quand on prend le temps de vivre ces instants-là, on en ressort subjugué, plus apaisé, peut-être un peu plus grand dans nos têtes, et ça, c'est
parce
important.
Parce que le film, c'est aussi une expérience pour le spectateur, c'est-à-dire que cet art de l'affût, cette patience-là qu'on a décrit justement depuis le début, c'est aussi quelque chose finalement qui est imposé d'une certaine manière au spectateur. On peut pas faire autrement, sinon il faut sortir de la salle.
Hein. Oui, c'est ça, on les coince. Ouais. Dès le début, on les met.
Donc
dans
il y a aussi cette expérience.
On les met dans un rythme assez lent, assez contemplatif, et puis après, je vous avoue que ça nous échappe un peu. Hein. On n'a pas fait le film en pensant qu'il fallait faire ça, mais c'est ce qui ressort des salles, en fait.
On peut pas faire autrement.
Mais sans vouloir trop casser l'ambiance, j'imagine malgré tout qu'il y a des moments qui doivent être hyper difficiles. Enfin, là, vous écoutez, on dirait que c'est absolument merveilleux, ce que je crois parfaitement, surtout après avoir vu le film, mais j'oublie pas que c'est un montage et que c'est des heures et des heures et des heures et des jours et des mois, etc. Il y a des moments difficiles, et c'est quel moment, s'il y en a?
Sur le terrain, vous voulez dire?
Oui, bien sûr.
Ouais. Bah, sur le terrain, bien sûr qu'il y a des moments difficiles, parce que les conditions climatiques sont rudes. Il y a le froid plus le vent, la poussière, sans douche pendant 3 semaines. Parfois, on est un petit peu à bout, surtout quand on passe des journées à rien voir. Et que moi, j'étais stressée par le fait de pas tous les jours accumuler des superbes séquences, comme avec les enfants, par exemple. Et donc, forcément, il y a des fois où on stresse un peu.
Oui, non, mais c'est certain. Après, il faut pas qu'on appuie là-dessus, parce que voilà. Enfin, moi, je suis un peu possédé, un peu obsédé. Et j'ai toujours cette quête animale qui me fait un petit peu oublier la souffrance du terrain. Mais oui, l'altitude, les maux de tête. On a eu beaucoup de soucis aussi avec la police chinoise. On est quand même dans des zones compliquées, donc ça, c'était vraiment épuisant psychologiquement. Mais ça nous tient. Après, on va pas trop se plaindre. C'était pas. Non, c'était pas si compliqué.
Ça nous... Quand je dis que c'est trop facile, tu me dis qu'il faut que c'est trop compliqué.
Ça, c'est l'après-tournage. Hein. Vincent Muni, il y a cette histoire d'une photo incroyable, celle d'un faucon que vous avez prise justement un jour au Tibet et sur laquelle vous avez découvert en rentrant en France qu'il y avait... C'est une photo de faucon avec le visage de la panthère.
Absolument,
justement.
Absolument, un faucon cresserelle, mâle.
Et ça, vous l'avez découvert quand rentrant en France,
ici à Paris ou partout. Et c'est arrivé en France finalement que j'ai pu voir sur mon grand écran en zoomant qu'il y avait la panthère qui finalement était juste derrière.
Ouais. Et là, on a le cœur qui bat ou pas quand on découvre ça sur sa photo?
C'est impossible, quoi. C'est un excellent pied de nez.
En train de vous regarder, en plus.
En train
de
me regarder. Ouais. Elle avait vraiment juste ses yeux qui dépassaient de la roche. Elle me regardait comme si ce faucon, en se posant là, m'avait un peu indiqué sa présence. On pourrait presque penser ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai, pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que ça réveille un petit peu des choses au plus profond de chacun, j'en suis persuadé. Je pense qu'on a, on a tous en nous ce besoin, cette nécessité, et c'est malheureusement caché par un peu cette spirale infernale de la société. Ça nous a emmené vers d'autres priorités. Mais on a tous au plus profond de nous, je pense, cette envie, ce besoin de cette beauté du sauvage, et pas obligatoirement au Tibet, mais même chez nous. Ça apaise énormément. Et là, les retours à la fin des séances, qui nous plaît, c'est que les gens se sentent un peu apaisés. C'est comme un baume. J'espère.
Et alors, il y a aussi du rire, beaucoup de rire. Et ça, est-ce que c'était une découverte pour vous, le pouvoir comique de Sylvain Tesson, Marie Amiguet? Parce que c'est vrai que votre duo est vraiment très comique par moment. Hein. Et on se marre.
Il aurait pu l'être encore plus.
Mais vous le saviez, ça, avant de recueillir les réactions du public ou pas?
Non, avant de... Oui, je le ressentais, moi. Au montage, évidemment, ouais. J'aimais beaucoup tout ça. Et puis quand vous montez pendant des heures, les blagues de Sylvain font énormément de ouais. bien, quoi. Hein.
Mais quand on voit la salle qui réagit, ça doit être génial, non?
Ben, c'est fabuleux.
Ouais. Hein, ouais, ça ouais. fait du bien, ça aussi,
et
pour
puis,
vous.
C'est délicat de trouver le bon dosage dans l'humour, hein, de ne pas trop en faire et puis quand même amener un peu de légèreté, ouais. quoi.
Mais parfois, c'est même pas des blagues qu'il fait, c'est en fait Sylvain Tesson, on s'identifie beaucoup à lui en regardant le film parce qu'il est totalement novice. On a l'impression, alors qu'à côté de Vincent Munier, c'est bon, il peut rien nous arriver. Vous êtes vraiment, on a l'impression, l'aventurier, je gère, etc. Et donc, parfois, on sent même un peu de peur, un peu d'appréhension,
et ça en devient
comique.
Ouais. Quand il dit qu'il faut avoir une vie intérieure riche, ouais. la salle se marre vraiment.
Quand
quoi.
Vous prenez de la pluie, de la neige, là, c'est compliqué.
Non, c'est sûr. Et puis ça, c'est encore le talent de Marie qui, finalement, il joue pas. Hein. C'est vraiment lui, c'est naturel. Elle a vraiment ouais. réussi à se cacher. Elle nous filmait. Sylvain, à un moment, se disait, mais je me souvenais même plus qu'il y avait un film. Quoi. On l'oubliait totalement. Donc c'est lui, c'est juste des échanges comme ça. Donc il était tout à fait sincère. Et sur l'ours, c'est pareil. Quand ces trois ours arrivent vers nous, là, c'est juste le boîtier qui filmait ces ours arrivant droit vers dans notre direction et Sylvain on a saisi ses expressions ouais. il était tout flippé.
C'est la scène préférée de Camille
ouais,
hier,
moi
du
c'est,
film,
c'est celle qui
la
m'a
scène
le plus marqué.
Et ça, on l'a découvert
après
au montage
quoi, hein. Vincent il fait non on reste ouais.
On sent un petit danger quand même dans l'air hein, avec ces trois ours hein. Justine Chantilly Alexander, est-ce que vous avez ri d'abord vous aussi en voyant La Panthère des Neiges?
Oui, j'ai ri quand on a vu cette scène avec cette photo avec le falcon, parce que ça nous arrivait aussi. Ouais, on a pris des photos de la montagne, juste comme ça. Et après, on est retourné au camp et on a vu qu'il y avait une panthère là dans la photo.
Et voilà.
On l'a pas vu avec nos yeux.
Ça doit être un peu énervant quand même hein, aux entournures, hein. J'imagine.
Ouais.
Justine Chardy Alexander, avant de vous quitter, qu'est-ce que vous allez mener là comme action pour essayer justement de protéger cette panthère des neiges? C'est quoi vraiment le cœur de votre travail aujourd'hui, de votre lutte?
Essayer de trouver des solutions où l'homme peut vivre avec la panthère en montagne. On a encore beaucoup d'espoir pour cette espèce parce que la plupart de son territoire est intact. Et c'est vraiment les frontières entre ces 12 pays. Alors, c'est vraiment une espèce où on peut vraiment protéger et avoir au futur.
Ouais.
Alors, je crois que on a besoin de vraiment travailler avec ces 12 pays ensemble et avec la Chine parce qu'il y a la moitié de la population en Chine et le gouvernement chinois est très fier de ça. Ils veulent faire quelque chose pour cette espèce. Alors il faut vraiment travailler avec la Chine, trouver des solutions avec le gouvernement et tous les autres 12 gouvernements. Mais aussi le cœur de notre engagement, c'est la recherche. Parce que même il y a 10 ans, on savait pas qu'ils avaient des si grands territoires. Et on savait pas qu'il fallait étudier cette espèce à grande échelle. Et si il faut étudier cette espèce à des 1000 km², il faut aussi les protéger à grande échelle. Et ça veut dire travailler avec les communautés, le gouvernement, le développement, les minières, tout le monde ensemble. Sinon, on pourra pas, on veut pas voir le futur de la panthère comme le tigre, où c'est juste des poches de population qui restent. Il faut vraiment essayer de garder tout, la population ensemble.
Merci Justine Chantilly Alexander, donc pour le Snow Leopard Trust. Marie Miguet, le pouvoir des images, ça peut servir à ça, justement, pour la protection de ces animaux. C'est un travail aussi que vous aviez fait d'ailleurs autour du lynx hein, dans ce film avec Vincent sur le silence des bêtes, d'où l'intérêt de montrer aussi ces animaux pour sensibiliser les populations. Hein.
Bah, c'est certain que les images ont un impact et encore plus les histoires qu'on raconte avec ces images-là. Ça a un impact très fort sur ce que peuvent imaginer les gens. Ouais.
Moi j'avais une dernière question quand même, je voulais savoir, est-ce que c'est un film avant tout sur la Panthère des Neiges ou est-ce que c'est un film sur Vincent Munier qui part à sa recherche?
Ni l'un ni l'autre.
Ouais, c'est un...
Enfin, je te laisse parler Marie, mais ni l'un ni l'autre.
La panthère, ça a toujours été un prétexte. Moi, j'ai toujours su qu'il fallait qu'elle soit un peu au second plan, parce que ce qui nous intéressait, c'était ces échanges, cette philosophie sur notre société, sur le monde, sur le sens de nos vies, sur qui on est par rapport à ces animaux, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'était ça nos messages forts, en fait.
Et pour vous, Vincent, c'est quoi le message fort?
C'est continuer ce combat, comme on avait rencontré mon père ensemble dans les Vosges, et c'est vraiment ça. Depuis, grâce à lui, depuis, c'est mon combat ultime, c'est d'essayer. Alors déjà, ce plaisir égoïste d'être toujours dehors, parce que moi j'en ai besoin, c'est vital. Et puis, on souffre tellement de voir à quel point c'est en train de se réduire, tous ces espaces et ce sauvage, qu'on a envie de partager l'amour inconditionnel qu'on a, et par le beau. C'est vraiment ça. Donc c'était par la photo, c'est pas suffisant. Maintenant, par le film, essayer de marier les sons, la musique et ces lumières incroyables avec ces notes animales qui montrent un peu leur vulnérabilité et ce besoin de préserver tout l'écosystème. Donc c'est ce combat d'essayer de marteler ce besoin de protéger cette beauté sauvage dont on dépend, dont on est tous interdépendants, que ça reste, c'est vraiment ça. Et là, c'est là, par l'émotion, par le sensible, qu'on met de côté.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. La Panthère des Neiges donc est sortie mercredi sur les écrans, et puis il y a une nouvelle édition de Gallimard aussi autour du livre avec vos photos, Vincent, hein, c'est le texte de Sylvain Tesson et vos photos toujours donc chez Gallimard en beau livre. Vous restez avec nous parce que
Pur, que dit la nature. Épisode 42.
Nous terminons comme tous les mercredis avec un peu de Nature Pure, le podcast et vodcast de France Télévisions, avec cette expérience sonore inédite à laquelle Vincent Munier et Marie Amiguet, vous allez pouvoir participer. Le but étant de deviner ce que vous allez entendre, là, où nous sommes sur la planète, avec quel animal, dans quel contexte. Ouvrez vos oreilles, vous allez peut-être pouvoir aider les auditeurs de la Terre au Carré. Ça vous inspire quelque chose ou pas?
J'ai aucune idée.
C'est un son magnifique, mais là, je ne vois pas
j'hésite
du tout.
Entre quelque
vous
chose
voyez
de
pas
tropical.
Du tout, vous, Vincent Munier.
Vous hésitez avec quoi, vous, Marie Amiguet?
Je ne saurais même pas dire des noms d'espèces, mais ça me rappelle un quelque chose comme un hibou ou une chouette. Un oiseau, je dirais un oiseau.
Ouais.
Ou une grenouille des tropiques.
Non, c'est un oiseau, je pense, mais je ne vois pas lequel.
C'est Fernand de Roussen, pardon, qui a enregistré ce son. Ben c'est le but, hein, tous les mercredis, c'est de faire plancher nos auditeurs pour qu'ils essaient d'imaginer de quoi il s'agit.
Il y a du vent.
Ouais. Ben, si vous souhaitez avoir la réponse, je vous conseille d'aller directement sur le podcast et vodcast de France Télévisions. Voilà. C'est comme ça qu'on vend tout, hein, chaque
terrible.
Semaine. Vous aurez la réponse avec l'image également de l'animal. Je ne vous dirai rien pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et puis bonne chance et beaucoup de succès pour le film La Panthère des Neiges.
Merci à vous
deux.
À bientôt.
Merci.